Si je devais dire quelque chose sur mon titre de mon message ce matin, je l'appellerais « L'attitude qui plaît à Dieu ». Alors, il n'y en a pas qu'une, mais je l'ai mis au singulier. Je pense qu'il y a, plusieurs attitudes et comportements, mais j'ai mis l'attitude en général qui plaît à Dieu. Et j'aimerais introduire avec quelques éléments, surtout le premier, qui est le mot que vous avez certainement entendu, que vous entendez encore peut-être, c'est le mot « crise ». Crise. Dans le monde que l'on vit aujourd'hui, le mot clé qui est ressorti souvent par nos politiciens, par un tas de personnes qu'on peut voir sur soit la télévision, dans le journal ou ailleurs, dans des émissions, c'est le mot crise qui est sorti très fort. Nous avons parlé de crise sanitaire, on en parle encore parce qu'on n'a pas terminé, même si les gens pensaient qu'en 2021, tout allait être réglé, parce que 2020 était derrière, ben non, 2021 nous permet encore de vivre cette crise sanitaire. La preuve, on a tous des masques, du gel et bien d'autres choses encore, la distanciation et autres. On a parlé de crise économique, de crise sociale, de crise écologique. On entend souvent ce mot crise avant un autre terme. Et peut-être pour nous, chrétiens, aujourd'hui, on pourrait parler de crise de foi. Alors, je ne parle pas de la crise de foi, on a bien mangé hier, une bonne raclette, une bonne fondue, ou bien, je ne sais pas, le saka-saka ou autre chose, un bon taux, et puis on a mal digéré le repas. Je parle d'une crise de foi parce que la réalité, c'est que nos églises aussi sont touchées. Elles sont touchées par ce qui se passe dans le monde, parce que nous faisons partie de ce monde quelque part. Nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes dans le monde. Donc, on n'est pas dissocié. L'Église ne va pas être mise à part et puis le monde va vivre sa pandémie. Nous vivons aussi la pandémie d'une manière ou d'une autre, les uns et les autres. Et ce n'est pas évident parce que ce qui est beaucoup touché de ce que je peux entendre dans les Églises, c'est ce mot grec qu'on connaît bien, c'est la koinonia, donc qui veut dire en fait, la koinonia, c'est le mot grec qui fait référence à la communion. À la communion, à la fraternité, à la participation de chacun, à l'engagement, à la contribution les uns envers les autres. Et c'est ce qui a été touché dans les églises, parce qu'à cause du semi-confinement, des pays ont fait comme mon pays, moi je suis français, on l'entend bien, je ne suis pas suisse, ni même pas vaudois, mais je suis français de la région de Paris, de la banlieue parisienne, et on voit bien que nos églises ont été très touchées parce qu'on leur a mis, bien sûr, un confinement qui ne permettait plus de se retrouver tous ensemble, la distanciation, on ne pouvait plus se faire des hugs, on ne pouvait plus sentir cette communion intense. On la vivait par Zoom. Bon, bah, par Zoom, c'est sympa, mais je veux dire, moi, je fais beaucoup de rencontres par Zoom, mais ce n'est pas la même chose, quoi. Je préfère avoir ma femme à côté de moi et pas par Zoom, quoi. Je veux dire, c'est quand même... Et mon frère ou ma sœur, quoi. Je veux dire, c'est important. Un pasteur que vous connaissez certainement et qui est sociologue, qui s'appelle Olivier Favre, du Centre de Vie, qui est de l'Église apostolique à Neuchâtel, quand un journaliste lui a posé la question « Quel enseignement les églises vont-elles tirer de cette crise ?» Il a répondu ceci, et je vous le lis. Un des effets de la pandémie dans la société, c'est un retour à l'essentiel. Dans une perspective chrétienne, ça revient à se recentrer sur ce qui est prioritaire, annoncer l'évangile et se préoccuper des pauvres. Voilà ce que nous dit le pasteur sociologue Olivier Favre. Il dit aussi, beaucoup d'églises ont eu des prises de conscience par rapport à cela. J'ai le sentiment que cette aspiration pourrait être plus forte, car tout a tellement été bousculé que les freins traditionnels vont être moins présents. Ces petits obstacles vont être levés. Il dit encore, cela ne signifie pas pour autant qu'il y aura un réveil, même si vous êtes l'église de réveil, mais j'imagine que les églises pourront plus facilement mettre en œuvre les changements qu'elles veulent voir. Beaucoup de responsables pourront profiter de la situation pour imaginer de nouvelles choses. Il sera plus facile d'abandonner des idées qu'on estimait désuètes et il y a une forme de nouveau départ. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez ici à l'église de Réveil de Bienne, mais je pense que cette pandémie, elle a été révélateur, elle est toujours révélateur, déclencheur de la réalité de ce qu'on vit, non seulement avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres. Elles mettent en évidence nos imperfections, nos forces, mais aussi nos faiblesses, et ce qui a besoin d'être transformé et travaillé. Alors, passons-nous par une crise aujourd'hui. Comment la traversons-nous, seuls ou ensemble? Comment pouvons-nous ressortir de cette période sans y laisser trop de plumes, comme on dit chez nous? Et qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut dire à son Église? Qu'est-ce qu'il veut me dire à moi personnellement? Alors j'aimerais poursuivre ce moment d'introduction ce matin en vous partageant aussi un autre contenu d'un pasteur qui s'appelle Vincent Fernandez, qui est pasteur dans l'Est de la France à Longuyon. Il est bien connu, enfin il est connu en tout cas en France. Il le cite ce verset dans Actes 1,14, qui ne sera pas mon verset de prédication, je vous le donnerai après, mais qui est le deuxième mot dans lequel j'aimerais vous rendre attentif ce matin, c'est le mot « ensemble ». Et il dit quelque chose de très bien, suite à ce verset que je vais vous lire dans Actes 1,14. « Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier, avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Le pasteur nous dit que ce texte se situe juste après le départ de Jésus, son ascension. Ils se retrouvent et ils sont, comme le dit le texte, tous ensemble. Ensemble, ce mot se retrouve 12 fois dans le Nouveau Testament et 10 fois dans le livre des Actes. Le livre des Actes, on aurait pu aussi l'appeler le livre du Saint-Esprit, les Actes du Saint-Esprit. Bon, on l'appelait les Actes des Apôtres, c'est très bien aussi. Quand on est ensemble, nous dit le pasteur Vincent Fernandez, c'est là où le Saint-Esprit vient, où le miracle arrive. Nous pouvons être ensemble sans l'être vraiment. Ce matin, nous pouvons être ensemble dans cette salle sans être ensemble, de cœur. On peut l'être physiquement, biologiquement, mais pas de cœur et d'âme, ni d'esprit. Nous pouvons être ensemble, nous dit aussi le pasteur, sans l'être vraiment. Nous pouvons être dans la même église et ne pas marcher ensemble. Est-ce que nous marchons ensemble ce matin ? Est-ce que nous courons vers le même but ? Ensemble, c'est avec une même vision, avec un même but, avec une même passion, avec une même unité de foi, avec une unité en obéissance à Jésus-Christ. Ensemble, ce n'est pas l'uniformité, c'est diversité. C'est là où le miracle se produit quand réellement nous sommes ensemble. Ce matin, nous sommes dans la diversité de couleurs, de nationalités, d'ethnies, de travail, on parle même job. Quelqu'un a dit, pour terminer cette petite introduction du pasteur Vincent Fernandez, vous le connaissez très bien, « Seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. » Seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. C'est le miracle de l'esprit qui se produit avant la visitation de l'esprit quand nous nous retrouvons ensemble. Ensemble. Ensemble dans cette crise. Personnellement, ce mot « ensemble » résonne dans mon cœur de manière particulière dans cette période de crise. Se tenir les coudes, avancer vers un même but, marcher par l'esprit, se soutenir mutuellement, être solidaires des uns des autres, porter secours aux plus faibles, aux plus démunis, aux plus fragiles et aux plus vulnérables parmi nous. Cette pandémie a laissé et laisse encore des traces et des marques dans la vie de plusieurs personnes. La solitude, la détresse, le désespoir ont hissé leur voile et leur étendard dans cette période difficile que le monde traverse et qui traverse encore. Ce n'est pas terminé. Nombreux sont celles et ceux qui ont besoin d'être rassurés en sortant de leur lieu de vie. Je connais une dame qui ne veut plus sortir de chez elle. Elle est chrétienne, elle a la foi, elle aime Jésus, mais elle a peur. Alors elle va sortir juste pour faire ses courses et c'est tout. Donc elle s'est coupée de la relation humaine, de la relation fraternelle, de la communion. Et c'est dommage. Mais on ne peut pas la forcer non plus. On ne peut que l'encourager, la stimuler. Les personnes ont peur, pourquoi ? À cause de leur fragilité, de leur vulnérabilité, à cause de l'âge aussi. On a fait tellement de pubs pour les plus de 65 ans que ceux qui ont plus de 65 ans sont réticents à sortir parce qu'on les a presque condamnés en leur disant « vous êtes fragile, il vous faut même une troisième injection bientôt ». Ou on leur a dit « vous êtes porteur peut-être même du virus ». Alors on a fait des clivages dans notre société et je trouve dommage. Et nous, l'Église de Jésus-Christ, nous avons besoin d'être ensemble, de nous rassurer les uns les autres et de ne pas faire ces clivages, de rassembler les différentes générations, de rassembler nos différences, notre complémentarité, c'est justement nos différences. Et elles sont bonnes quand elles sont ensemble, partagées, vécues, priées, communiées. Les différents protocoles, comme ce matin, merci ma sœur, vous nous avez accueillis avec beaucoup de délicatesse, en nous proposant bien sûr le masque, en nous disant qu'il fallait écrire sur la feuille pour la traçabilité. Il y a le désinfectant, il y a la distanciation, il y a le pass sanitaire pour certains, selon la taille de l'église, il y a le vaccin, les pour, les contre, les complotistes, les réfractaires, les indifférents. Tout cela, ça apporte une confusion dans notre esprit. Et nous-mêmes, les chrétiens, on est parfois confus. J'entends des gens qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils sont stressés, ils sont dans l'insécurité. Combien sont ceux et celles qui sont laissés pour compte à cause de cette situation et qui doivent se résigner à frapper à la porte des associations caritatives? Je ne sais pas si vous avez vu à Genève, c'était 2500 personnes, quoi. Ce n'est pas juste quelques personnes par-ci, par-là. Et certains n'ont plus rien. J'ai écouté une émission l'autre fois où un couple qui est sans papier louait faisait une location déjà d'une location. Donc, ils sous-louaient un appartement, ils payaient une somme incroyable et ils touchaient pratiquement juste de quoi payer le loyer. Seulement, ils ont perdu leur travail parce qu'à cause de la pandémie, ils n'ont plus rien. Ils se sont endettés. Ça, c'est un témoignage parmi tant d'autres. D'autres vont chercher des sacs chaque semaine. Et même avec ça, ça ne suffit pas. Ce matin, ma question, et je crois que c'est la plus importante si on doit retenir quelque chose, c'est est-ce que nous sommes ensemble ? Dans une marche commune, dans une pensée partagée, dans une passion pour notre mission, dans un élan de communion fraternelle, posé sur un même fondement, est-ce que nous sommes ensemble ? Alors pourquoi ce matin je vous introduis mon message avec ce mot « ensemble » ? Parce que je crois fermement qu'il y a là un enjeu de taille à vivre ensemble dans un service en équipe et que cela est crucial pour la pérennité de l'Église et de ses projets. Et alors je viens à mon verset, 1 Pierre 3,8. Notez. « Enfin, nous dit Pierre, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. » Ce petit chapitre, cette péricope de 1 Pierre 3, 1 à 7, parle de la soumission, de l'intersoumission entre le mari et la femme. Hein. Pierre encourage les femmes même, je crois que, si je me rappelle bien, encourage la femme dont le mari n'est pas chrétien à avoir un témoignage puissant auprès de son mari. Et de même, le mari doit se comporter comme ayant une femme qui n'est pas son aide simplement, mais qui est son vis-à-vis, parce que c'est bien le terme employé. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a fait de la femme le vis-à-vis de l'homme et pas son esclave ou je ne sais quoi, par rapport à certaines interprétations de la traduction du verset ou de l'écriture. La femme n'est pas l'esclave de l'homme ou simplement sa béquille ou son aide. Elle est son vis-à-vis, son face-à-face. Comme Dieu l'a dit dès le début, il a dit « J'ai créé l'homme et la femme semblables à nous hein ». C'était le vis-à-vis. Dieu était est le vis-à-vis de l'homme comme l'homme est le vis-à-vis de Dieu. Et il y a cette relation qui se vit quotidiennement, en tout cas je l'espère pour vous, avec ce Dieu incroyable, ce Dieu trinitaire, ce Dieu qui est notre vis-à-vis, dans lequel nous pouvons nous regarder, dans lequel nous pouvons contempler sa grâce et sa bénédiction. Donc ici, dans ce contexte-là de 1 Pierre 3, le verset 8, mais la péricope de 1 Pierre 3, verset 1 à 7, l'apôtre Pierre encourage les chrétiens de son époque, du premier siècle, à ne pas baisser les bras, à ne pas se résigner à cause des tensions qui étaient sous-jacentes à l'époque de ce premier siècle, où régnaient les difficultés, où régnaient vers la fin du premier siècle aussi les persécutions. Pierre encourage les chrétiens de l'époque à avoir une attitude qui plaise à Dieu. Une attitude qui plaisent à Dieu. Pierre recommande donc aux croyants juifs de faire preuve de confiance au Seigneur ressuscité. Il est là. On l'a dit tout à l'heure, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Ça, ce n'est pas ma déclaration, c'est celle de Dieu. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le monde n'est pas fini encore. Et il est encore là aujourd'hui. Donc, croyons à ces promesses. Ce n'est pas juste des belles paroles qui sont appliquées dans un livre qui s'appelle la Bible et qui ne contient pas la parole, mais qui est la parole de Dieu. Non, ce sont des paroles de Dieu. C'est Dieu lui-même qui le déclare et qui le proclame. Je suis avec vous tous les jours. Alors, malgré les réalités difficiles que les croyants de l'époque de Pierre doivent faire face, Pierre apporte son soutien et son réconfort pour que ceux-ci restent fidèles à la foi et témoignent d'une conduite exemplaire dans un monde déchu. Alors, je vais donner deux choses. J'espère que j'arriverai à faire le tour. La première, c'est 6 attitudes à adopter pour une équipe efficace. Et quand je parle d'équipe, on peut partir de l'église en passant par le groupe de maison, le groupe de prière, la famille, le couple, l'individu. Mais il vaut mieux être deux parce qu'une équipe, c'est quand même 2 personnes au minimum. Alors, je vais vous donner 6 attitudes à adopter pour qu'une équipe soit efficace. Je le crois personnellement. Et puis ensuite, si le temps nous est donné, 5 éléments importants à cultiver pour que cette équipe reste pertinente, efficace et, je vais dire, dans la durabilité. Alors la première, écoutez bien, la force d'une équipe qui gagne dépend dans une église ou dans un groupe de maison de la qualité des relations, de l'amour, du respect et de l'engagement que les uns ont envers les autres. Alors ce n'est pas un scoop, hein. Je ne suis pas en train de vous dire « Oh, écoutez-moi ce matin, j'ai un scoop ». Non, je n'ai pas de scoop. Mais ces ingrédients-là, est-ce que nous les vivons réellement? Est-ce que nous avons cette qualité de relation les uns avec les autres? Cet amour qu'on appelle l'amour circulaire, qui ne s'arrête pas, qui circule. Il y a un début, mais il n'y a pas de fin. Ça tourne toujours, c'est circulaire. Il ne s'arrête pas. Cela doit être au cœur de la démarche de départ pour vivre une marche commune, c'est-à-dire une relation de qualité basée sur l'amour. On pourrait renvoyer cela à 1 Corinthiens 13, versets 1 à 7, qui nous explique ce que n'est pas l'amour ou ce qu'est l'amour réellement. On pourrait relire ce chapitre, en tout cas cette péricope de 1 à 7 de 1 Corinthiens 13. Pour devenir une équipe gagnante et efficace, nous avons besoin de chacun. Chacun est important, il n'y en a pas un plus que l'autre. Nous sommes chacun individuellement important pour former cette équipe. C'est ce qu'on appelle dans le langage d'aujourd'hui la diversité et la complémentarité. Dieu ne nous a pas créés en robots, en série. Il a fait de nous des individus différents et tant mieux pour cela. C'est ça la richesse d'une équipe. C'est toute cette différence, cette diversité. Développer un esprit d'équipe, cela prend du temps, je dirais même un certain temps et certains diront difficile de le vivre rapidement. C'est vrai. Ça ne se fait pas en quelques jours, ça se construit, ça se bâtit, ça se solidifie, ça se développe. La force d'une équipe, ça c'est un autre point qui gagne, c'est qu'elle est toujours prête à écouter, à apprendre et à se laisser interpeller, à se remettre en question et parfois même à changer, comme on dit chez nous, son fusil d'épaule. Ça veut dire qu'elle était partie dans une direction. Et dans une écoute avec Dieu ou dans une rencontre où certains échangent, elle dit « Ah, peut-être qu'on ne fait pas bonne route là. Il faut peut-être changer le fusil. Il faut peut-être aller dans une autre direction. » Donc c'est une équipe qui est prête à écouter Dieu, à s'écouter mutuellement, puisque nous sommes plusieurs, à apprendre, à se laisser interpeller, à se remettre en question. La force d'une équipe qui gagne, un troisième élément, c'est qu'elle fait preuve de soumission et d'intersoumission. On se soumet les uns aux autres. C'est pas il y a le patron et les autres font ce qu'on leur dit. Non, on est sur un pied d'égalité et on travaille en collaboration, dans une gouvernance qu'on appelle partagée. Hein. Ce n'est pas une gouvernance où il y a un seul et les autres font ce qu'on leur demande. Non, c'est une gouvernance partagée où on apprécie et on met en éveil les qualités, les dons et les compétences de chacun pour le service de Dieu. Je le dis bien. Pour le service de Dieu. La force d'une équipe qui gagne, c'est qu'elle garde une attitude ouverte, bienveillante, soumise à l'intérêt commun, sans oublier qu'au centre de cet intérêt, c'est la croix qui est plantée. Au centre de l'intérêt commun, c'est la croix du Christ qui est plantée. C'est le Christ qui doit être notre centre d'intérêt premier, et pas le projet, ni le camp, ni l'événement, ni l'activité, ni le week-end, ni quoi que ce soit. Mais c'est le Christ lui-même qui est le centre, qui est la première, je dirais, qui est la première des priorités. C'est la priorité number one. Je dirais pour un quatrième élément, la force d'une équipe qui gagne, c'est qu'elle est efficace et perspicace. C'est une équipe qui ne craint pas de prendre des risques, de sortir ou d'étendre sa zone de confort. On n'est pas obligé de sortir de notre zone de confort. Mais déjà, si on l'étend à d'autres, c'est déjà pas mal. C'est déjà un premier pas. Ensuite, si on peut en sortir, c'est très bien aussi. C'est une équipe qui ne craint pas de prendre des risques, de sortir ou d'étendre sa zone de confort, tout en restant prudente et en mode veille. Et quand je parle de prudence et en mode veille, je parle que c'est une équipe qui écoute le Saint-Esprit, qui prie. Pas la petite prière du vite fait, bien fait, mais qui est dans cet esprit de prière constant. C'est-à-dire qui reste bienveillante et veillante. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est une équipe qui prie, qui intercède, qui jeûne, qui prend le temps de respirer, c'est-à-dire d'écouter Dieu et de s'écouter les uns les autres. Sa préoccupation première de cette équipe qui gagne, c'est le royaume de Dieu et le témoignage de l'Évangile. C'est ça, sa préoccupation première. Le royaume de Dieu et le témoignage de l'Évangile. Elle ose se laisser défier et elle dispose d'éléments redoutables, la foi, l'espérance et l'amour. On revient sur 1 Corinthiens 13, le dernier verset, hein, qui nous parle de cette foi, de cette espérance et de cet amour, qui sont pour moi des fondements importants de la vie du chrétien. La force d'une équipe qui gagne, et c'est j'ai encore deux points pour ça, c'est son ouverture au changement, sa disposition intérieure à partager la bonne nouvelle dans un monde sans cesse en mouvement et en mutation. L'Évangile ne change pas, mes frères et sœurs, et son contenu non plus, on est tous d'accord. Mais pour l'annoncer dans le monde, il faut sans cesse changer de méthode et s'adapter à de nouvelles situations pour atteindre les hommes et les femmes de ce monde, de ce siècle dans lequel nous vivons. Et donc cette équipe, elle est consciente de cela et elle y travaille pour être toujours aussi pertinente dans cette société qui a mis Dieu au rencard. Faut pas rêver. Dieu a été expulsé. Il a été expulsé de la vie de notre société dans laquelle on vit, sur le plan occidental en tout cas. Et cette équipe, elle est là pour prendre le temps de voir comment elle peut être pertinente dans cette société actuellement. Comment je peux parler de l'Évangile, comment je peux témoigner de l'Évangile, comment je peux être efficace dans ce royaume de Dieu, dans ce siècle dans lequel je vis, avec cette pandémie. Ou bien j'arrête tout et je me dis, le temps que la pandémie passe, et puis après on verra. Mais non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il faut faire cela. Je crois qu'il faut chercher d'autres, je ne dis pas techniques, mais méthodes par lesquelles on peut continuer à faire grandir, accroître le royaume de Dieu ici-bas, à Bienne, pour vous, et puis que notre témoignage soit aussi pertinent. Peut-être il faut le vivre autrement, réfléchir à d'autres manières de le partager ou de le vivre. La force d'une équipe qui gagne, et c'est mon dernier point pour ces six éléments, c'est qu'elle elle a une sagesse spirituelle reconnue, appréciée et validée par ceux et celles qui l'entourent. On reconnaît chez elle, dans cette équipe, cette sagesse, ce discernement, cette force, cette capacité. Elle respire la confiance et la paix. Et je parle de l'Église. Si on veut prendre la première entité, on peut. C'est la première équipe, c'est l'Église. Alors la toute première équipe, me dirait des amis, c'est la famille d'abord, c'est la cellule familiale, on est d'accord. Aujourd'hui, on est dans l'Église et je parle de l'Église. Mais c'est vrai que la première équipe, c'est la cellule familiale. Aujourd'hui, j'adapte ce texte plutôt à l'Église en disant « elle respire la confiance ». Est-ce que mon Église, là où je suis, elle respire la confiance, la paix, elle transmet la sérénité et elle soupire à plus de communion fraternelle ou plus de communion avec son maître? Est-ce qu'elle donne envie? Est-ce qu'elle a du goût? Elle a de la texture, mon Église? Est-ce que quand je rentre, j'ai juste envie, quoi? J'ai envie de me lâcher, j'ai envie de prier, j'ai envie d'intercéder, j'ai envie de prendre mes frères et sœurs, de leur dire une parole de bénédiction, de prier pour eux, d'être un instrument, un agent, je dirais, de bénédiction. Elle donne envie et elle a du goût à l'ouvrage. Elle a envie que le royaume de Dieu s'étende et croisse, qu'il grandisse là où il est, dans son quartier, peu importe, dans sa ville, dans son bâtiment, dans son travail. Ce qui donne de la légitimité et de la force à une telle équipe, c'est la vie transformée par l'esprit de ses équipiers. C'est un parcours que j'appelle de transformation. Transformé par l'action de l'esprit. Transformation. transformé par la puissance de l'Esprit. Et c'est ça qui peut nous donner d'être efficace, d'être pertinent, d'oser faire des choses qu'on n'a jamais faites, même si le monde nous dit « c'est un peu malade là les gars ». Ouais. Mais si c'est Dieu qui dit, alors là je peux vous dire qu'on n'est pas des malades. On a vraiment compris ce que Dieu voulait et on le fait, on le pratique. Je vous donne 5 éléments importants à cultiver par rapport au verset que je vous ai lu tout à l'heure dans 1 Pierre 3. Hein, je peux le relire juste pour qu'on se l'imprègne. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Je reprends ces éléments. Même pensée. Poursuivre ensemble le même but à atteindre. C'est ça la même pensée. C'est poursuivre ensemble le même but à atteindre. Qu'est-ce que Dieu a dit à l'Église ici, évangélique, de Réveil de Bienne? Qu'est-ce que Dieu dit? C'est quoi sa vision? On n'a pas besoin d'un truc. Moi, je dis, quand on parle de vision, ça peut être vraiment 2 lignes. On n'a pas besoin de faire une dissertation ou un dossier sur 15 pages. Vers quoi on va? Vers quoi l'Église évangélique de Réveil va? Vers quelle direction? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Qu'est-ce qu'elle veut donner? C'est juste ça. C'est quoi son but ultime? Êtes-vous dans un commun accord dans tout ce que vous vivez? Est-ce que vous êtes en accord? Accordez-vous et Dieu va agir. Si on est dans le désaccord, si on n'est pas dans cette unité, comment Dieu peut agir? Êtes-vous dans un commun accord dans tout ce que vivez ensemble en tant que communauté? Êtes-vous OK les uns avec les autres? Y a-t-il des tensions? Ça fait partie de l'humanité. Ce n'est pas un drame dans une église. Le drame, c'est de ne pas les régler. Mais on est des pécheurs rachetés. Je rappelle notre statut, pécheurs rachetés, humains. On a été rachetés par le sang du Christ, on est d'accord. Mais moi, je vous dis que notre humanité, elle est bien là. Je la vois bien. En tout cas, avec la pandémie, elle est certainement bien, 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 bien là. Il arrive qu'il y ait des tensions dans l'Église. Et c'est parfois pas si mauvais que ça. Ça révèle nos cœurs, ça révèle nos comportements, nos caractères, ce qui est à l'intérieur, ce qui est plutôt péjorable, c'est lorsqu'on ne règle pas ces situations, lorsqu'on laisse les tensions grandir et éclater. L'important, c'est de pouvoir vivre l'Évangile. On s'écoute, on n'est pas d'accord, mais on trouve un chemin commun. Et tant qu'on ne l'a pas trouvé, on prie, on se concerte, on s'écoute mutuellement. Il y a un verset dans Philippiens qui dit ça. Hein, même si vous n'êtes pas tous d'accord, à partir de maintenant, marchons ensemble, dit Paul aux Philippiens, et Christ nous éclairera. Ça doit être dans Philippiens 3, quelque chose comme ça. Ce verset qui, voilà, on peut ne pas être d'accord sur tout, mais l'idée c'est de marcher ensemble. Ok, on n'est pas d'accord, mais moi, mon choix, j'ai dit, je marche avec mon frère et je vais laisser aussi le Christ m'éclairer par sa parole. Il est dit que sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Dieu va éclairer aussi pour que nous puissions, vous puissiez marcher ensemble. Pas de vieux restes ou de contentieux qui ne seraient pas mis à la lumière. Ne mettons pas les choses sous le tapis. Mettons-les à la lumière du Christ ensemble. Nous sommes des adultes, nous sommes des frères et des sœurs dans le Christ ressuscité. Et on a chanté tout à l'heure, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. La vérité, on doit la vivre. Le chemin, c'est le seul, il n'y en a pas d'autre. Les autres sont des chemins qui vont nous amener dans des voies sans issue. La vie, parce que quand on est sur le chemin de Jésus-Christ, qui est le ressuscité, et qu'on vit en vérité, c'est cette vie qu'on exprime, la vie de la vérité de ce chemin qui est incroyable que nous prenons. Pas un chemin facile, hein. Jésus ne l'a jamais dit, au contraire, il nous a prévenus, hein. Si vous me suivez, vous n'aurez pas de tanière pour mettre votre tête, et puis ils m'ont haï, ils vous haïront aussi, hein. On le voit bien. Hein. J'ai été à la journée porte ouverte il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu un témoignage d'un couple colombien. Ouh, je vous assure, on est bien en Suisse, hein. Tout va bien. Hein. Ainsi qu'un couple qui a fait 23 ans en Turquie. Ben, il a fait 2 ans de prison. Et normalement, il avait, en fait, sa peine, c'était 3 fois à vie plus 35 ans. Donc imaginez, il aurait fallu qu'il ait 4 vies pour la faire. Et cet homme, il a été gracié au bout de 2 ans, mais il a vécu 2 ans dans une prison. Et il a dit, c'était waouh, prison turque, hein. On n'est pas en Suisse. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a un verset qu'on pourrait donner par rapport à ce que je vous ai dit, même pensée. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Voilà de quoi on doit se nourrir. On doit nourrir nos pensées de tout ce qui est bon, vrai, noble, juste, pur, digne d'approbation, tout ce qui est vertueux et mérite louange. Après, le deuxième, c'est même sentiment. Alors, le même sentiment, c'est cette sensibilité aux différents besoins des autres. Gardons-nous cette sensibilité, développons-nous cet intérêt pour l'autre. Mon frère qui n'a peut-être pas tout ce que moi j'ai, est-ce que je peux partager, pas seulement mon superflu, parce que ça c'est facile, mais mon nécessaire. Parfois, Dieu nous demande, comme cette veuve qui a partagé ses deux sous, c'est ce qu'elle avait, hein, c'est tout ce qu'elle avait. On ne connaît pas la suite, mais on imagine que Dieu l'a bénie. Et je me rappelle de l'histoire de ce pasteur, c'est une histoire en Afrique, on dit toujours comme ça. Tous les mois, il mettait deux enveloppes. Il avait l'enveloppe 90% pour lui et l'enveloppe 10% la dîme. Puis un jour, il a interverti les deux. Il a donné 90% à Dieu et il a gardé 10% pour lui. C'est en ouvrant l'enveloppe qu'il s'est rendu compte de l'erreur. Alors on en rigole. L'histoire, on n'a pas la suite, mais on l'imagine, quoi. Et moi, je l'imagine comme Dieu, il a pourvu pour les 90%. Il n'a pas laissé cet homme, ce frère, dans la disette. Parce qu'il l'a fait juste par erreur, mais je pense que son cœur était dedans. Et je crois que dans tout ce qu'on fait, si notre cœur est dedans, peu importe ce qu'on donne, j'ai envie de dire. Des fois, on ne peut pas donner tout ce qu'on aimerait donner. Mais si on le donne de tout bon cœur, je crois que ça, c'est Dieu honore ça. Dieu honore ça. Ce n'est pas nos sacrifices qu'il a envie, Dieu, c'est notre cœur. Et dans la Bible, on voit bien la traversée, hein, le cœur de l'homme. C'est ce qui préoccupe Dieu, c'est notre cœur. Hein, la Bible dit pour le même sentiment, ayez les uns pour les autres une égale considération. Ne visez pas ce qui est trop haut, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. C'est un verset, hein, qu'on connaît bien, c'est dans Romains 12, 16, 18. Et tout à l'heure, je vous ai cité Philippiens 4, 8, 9, quand je parlais de tout ce qui est vrai, noble, juste et vertueux. J'aime bien donner les versets. Après, il y a plein d'amour fraternel. C'est quoi plein d'amour fraternel? C'est s'accueillir mutuellement, accueillir le frère, la sœur, l'étranger, le migrant, celui qui n'est pas de ma région, qui n'est pas de mon quartier, qui n'est pas la même couleur que moi, qui n'est pas suisse, qui n'est pas vaudois, qui est peut-être jurassien, bernois, peu importe. L'autre, dans toute sa diversité, pas de sélection. J'aime mon frère parce que Dieu m'a aimé. Et il n'a pas regardé à qui j'étais, il a regardé simplement parce qu'il m'a créé et il m'a aimé. Je suis son fils. Donc, je crois que c'est ça, développer cet amour fraternel, le faire grandir, accepter. Et là où on a de la difficulté, prier, demander à Dieu. Parfois, on a du mal parce qu'on a été blessé. Alors, l'amour fraternel, c'est aussi la bienveillance, le respect, la dignité de l'autre, le mettre en valeur, pas lui montrer toujours tout ce qui ne va pas chez lui. Parce que la Bible nous dit, hein, avant d'aller voir la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère, regarde la poutre qu'il y a chez toi. Donc, soyons animés d'un bon esprit, aimons les frères. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. Ça c'est 1 Pierre 4, 8 à 10, mais je vous ai lu une partie. L'avant-dernier, compassion, être rempli d'affection pour les frères et pour tous ceux que Dieu nous envoie. Prendre soin d'eux et leur faire une place pour que la personne se sente acceptée, valorisée, intégré, accueilli. Ici, tu n'es pas dans mon église, tu es dans l'église de Jésus-Christ. Alors sois le bienvenu, comme moi je le suis. Même si ça fait 40 ans que je suis là, et toi tu viens d'arriver ce matin, peu importe. Tu es aussi le bienvenu que celui qui est là depuis 40 ans. Parce que c'est l'église de Jésus-Christ, et ce n'est pas mon église, ce n'est pas moi qui la bâtirai. Et Jésus a dit, je bâtis mon église. C'est Jésus qui l'a bâtie. Et rappelez-vous de ce verset dans Matthieu 9, 36, « Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, elle qui était languissante et abattue comme des brebis qui n'avaient point de berger. » Jésus nous montre le chemin de la compassion. Et puis le dernier, c'est l'humilité. L'humilité, être humble, désir de s'encourager mutuellement et de se réjouir du succès de l'un ou de l'autre. Ça, c'est un peu plus dur parfois, hein, de se réjouir de l'abondance de l'un ou de l'autre. Des fois, on se dit, et moi, Dieu, tu ne m'as pas oublié là-dedans. Lui, il a eu ça, il a eu ça, il a eu ça. Et moi, et moi. Eh bien non, réjouis-toi mon frère. Moi je cherche du travail depuis 6 mois, j'ai un ami, ça faisait 4 ans qu'il cherchait du boulot. Et il a trouvé, je me suis réjoui pour lui. C'était top quoi. Et je n'ai pas dit à Dieu, et moi. J'ai dit non, je serai le prochain, je lui ai dit. Non, c'est vrai, réjouissons-nous du bienfait que Dieu donne à l'un ou à l'autre. C'est juste une bénédiction. Alléluia. Merci Seigneur. La culture de l'encouragement, cultiver une attitude responsable de la présence de l'autre et de sa place dans l'église. Encourager la personne. Il y avait 3 musiciens, ouais. Il y avait Déborah, les 2 autres, ben, le papa et puis la jeune fille. Top, encouragez-les. Tout n'était pas parfait. Et moi, ce que je vous dis, ce n'est pas parfait non plus. Je ne suis peut-être pas parfait non plus ce matin. Mais quand même, encouragez-les. Merci pour ce chant que tu as choisi. Merci pour ces paroles qui m'ont fait du bien ce matin. C'est Dieu qui parle au travers. Elles ont fait le choix. Elles ont obéi à Dieu parce qu'elles ont cherché en priant quel chant pourrait donner aujourd'hui. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. La paix. Éphésiens 4, 1 à 3. J'ai encore beaucoup de choses, mais je vais conclure. À un moment donné, il faut s'arrêter quand même. Hein. Alors, c'est une conclusion qui est un peu plus longue, mais parce que je crois qu'elle vaut la peine. Alors pourquoi vous partagez tout cela ce matin, cet esprit d'équipe, le mot crise, le mot être ensemble? Parce que je crois que si vous, Église évangélique de Réveil, de Bienne, vous existez, vous perdurez, vous vous développez au fur et à mesure, même s'il y a eu des temps de crise, peu importe. Ok, mais ça c'est le passé. Aujourd'hui il faut repartir. On en vit tous des crises, à tous les niveaux. Ce qui est important, c'est d'en tirer des leçons et de repartir. Parce que Paul nous encourage que la vie chrétienne est une marche, il dit même que c'est une course. Donc je ne sais pas si on va courir ce matin, mais il nous parle de marche. Marcher dans la sanctification, dira Paul. Marcher dans la lumière, marcher dans la vérité. Courez pour remporter le but. Le but, c'est qui? C'est Christ ressuscité. C'est ce Christ que nous voulons quelque part saisir, hein, comme Jean-Baptiste le disait. Puisses-tu grandir en moi afin que je diminue? Quand le Christ se développe en nous, notre nature humaine, notre nature charnelle, notre vieille nature diminue automatiquement, même si elle existe toujours. Hein. Les eaux du baptême n'ont pas empêché parfois notre vieille nature de reprendre le dessus. Pourtant, on l'a noyée. Hein. Mais comme le disait Luther, j'ai vu que la mienne savait nager. Ah oui, bah oui, c'est clair, on le sait les amis. C'est vrai qu'on a été racheté, c'est vrai que la vieille nature a été ensevelie par les eaux du baptême. Mais la réalité, c'est que parfois, nous montre que de temps en temps, la vieille nature, elle est bien présente quand même. Et moi, je vous le dis. Et celui ou celle qui peut vous le dire, c'est votre femme, ou votre mari, ou vos enfants. C'est les plus grands témoins qui peuvent dire, « Eh là, papa, ok, la vieille nature, hein, elle a repris un peu le dessus. » Donc attention, laissons le Christ vraiment se développer en nous. Nous ne sommes pas là pour nous, mais pour Dieu ce matin. Et pour tous ceux qu'il met devant nous, sur notre route. Soyez attentifs quand vous rentrez au supermarché, n'importe où. Parfois le Seigneur vous met des gens comme ça. Donc soyez attentifs. Parce que la bénédiction, elle sort du bâtiment. L'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est le rassemblement. On pourrait être dehors et on serait l'église de Jésus-Christ. Là, c'est les locaux pour qu'on ait un peu chaud quand même. Et puis parce que peut-être que la loi nous dit qu'on n'a pas le droit aussi de prêcher dehors, mais le but c'est que l'Église soit vivante et elle soit vivante dans toutes les sphères de la société et à tout moment, pas que le culte du dimanche matin. Nous collaborons main dans la main et pas pour notre bien. Si pour nous, notre réputation ou pour notre ambition personnelle, ça c'est chaud. On ne fait pas ça pour nous-mêmes, on le fait pour Dieu. On ne le fait pas pour avoir des galons, pour avoir une estime, pour voilà, on dit ah, le pasteur Thierry Cuny, ouais top et tout. Non, ce n'est pas ça. Ça ne sert à rien, ça. Ça ne donne pas d'éléments, je dirais, dans le royaume de Dieu. Ce qui est important, c'est que nous soyons des serviteurs du Christ ressuscité, et les uns avec les autres, et que nous puissions nous bénir mutuellement. Nous sommes tous d'accord pour dire que c'est Dieu qui est au cœur de la vie de votre Église. Moi, j'en suis convaincu. Peu importe ce qu'elle a traversé, non pas peu importe. Elle a traversé certainement des choses, et elle en traversera d'autres. Ce qui compte, c'est de ressortir, je dirais, la tête fixée sur celui qui est, qui était et qui revient bientôt. La vie dans une communauté est une affaire de cœur, une affaire de relation, une affaire de bienveillance, de dépendance, de confiance et surtout d'amour. Un amour qui va et vient et qui ne cesse de circuler et de couler librement. Alors les amis, la bonne température, le bon équilibre de la pérennité d'une église se trouve dans ces cinq éléments. Même pensée, même sentiment, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Et comme le dit Romain, Paul aux Romains, au chapitre 15, verset 7, « Accueillez-vous les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Et je vais m'arrêter là, même si j'ai encore du matériel. Je pense qu'il faut s'arrêter là, c'est le temps. Et je vais prier pour vous. Ça va ? Je prie. Seigneur Jésus, on veut te bénir pour ta communauté, pour ton église qui est ici. Cette église locale qui est ton corps, qui est une partie de ton corps, comme bien d'autres dans le monde. Seigneur, nous voulons simplement la remettre à ta grâce. Seigneur, il y a eu certainement des moments plus difficiles que d'autres. Il y a eu des tensions, il y a eu peut-être des divergences. Et il y a eu certainement beaucoup de choses. Mais ce matin, nous te l'apportons, Seigneur, comme une offrande que nous déposons sur l'autel, afin que tu la consumes, non pas pour la brûler, mais pour la sanctifier, pour la relever, pour la restaurer, pour lui donner de redémarrer, qu'il n'y a pas de fin, parce qu'elle est encore là. Il y a un reste qui est là, et ce reste, tu veux l'amener plus loin, dans ce royaume de Dieu. Tu veux faire grandir cette église, pas simplement en nombre, mais aussi en stature, en maturité, en compréhension, en écoute de ta voix. Seigneur, que la bénédiction de Dieu repose sur chaque membre de cette église, sur les responsables, sur les différents groupes, sur les activités, sur les comités. Seigneur, nous t'apportons toute cette église, Seigneur. Et nous crions à toi ce matin. Fais grâce, Seigneur. Relève ceux qui ont besoin d'être relevés. Guéris ceux qui ont besoin d'être guéris. Restaure ceux qui ont besoin d'être restaurés. Et Seigneur, que cette église continue à marcher à ta suite. Dans le nom puissant de Jésus, je réclame cette bénédiction au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre écoute.